Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en 1348 à Avignon, c'est-à-dire aux portes du royaume de France. En effet, la ville d'Avignon à cette époque appartient à la reine Jeanne de Naples, comtesse de Provence. Pour 80 000 florins, et avec l'accord de l'empereur Charles IV, Jeanne de Naples cède au pape Clément VI la seigneurie d'Avignon. Sur les façades de la ville, on martèle les armes de l'ancienne maîtresse des lieux pour y sculpter celles du pontife. Les Avignonnais mirent un certain temps avant d'accepter la chose. Leur nouveau maître, à la différence de l'ancien, était lui bien présent car en effet, depuis 1309, plus de 40 ans donc, le pape vit à Avignon. Ce sont naturellement les circonstances qui lui ont poussé à l'époque le Gascon Clément V, sujet des Capétiens, préfère remettre à plus tard son voyage à Rome, la ville éternelle étant soumise à d'incessantes querelles. Il s'installe donc sur les bords du Rhône où le fameux pont de Saint-Bénezet a été construit depuis plusieurs années déjà. L'élément n'est pas anodin puisqu'il s'agit du premier pont sur le fleuve depuis la mer. Avignon a donc une position géographique de premier plan et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le pape décide d'y installer sa résidence. Dès lors, les successeurs du pape Clément V font de cette petite ville un centre politique, un centre administratif et un centre financier. La cour pontificale y déploie ses fastes, une université dispense des cours de théologie, de droit et de médecine. La ville a sans nul doute un rayonnement culturel. Le palais des papes, construit à partir de 1335, devient lui le symbole aussi de ce rayonnement, un rayonnement qui est tout simplement celui de l'Église d'Occident. Jean-Favier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à l'invitation de Canal Académie. Faut-il encore vous présenter ? Vous avez été universitaire, professeur à la Sorbonne, président de la Bibliothèque nationale de France. Vous êtes membre de l'Institut de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, spécialiste d'histoire médiévale. Je vous ai déjà reçu au micro de Canal Académie pour évoquer le couronnement de Charlemagne en 800, une émission disponible dans la médiathèque de Canal Académie. Et vous venez de publier aux éditions Fayard une monographie consacrée au pape d'Avignon. Alors, dès la première page de votre ouvrage, vous dites que cette expression de pape d'Avignon est non pas réductrice, mais qu'elle cache une réalité plus complexe, réalité que vous nous expliquez à travers l'intitulé de vos trois grandes parties.
Oui, j'ai gardé pour le titre du livre l'appellation la plus courante, celle que tout le monde comprend, les papes d'Avignon. Mais il faut quand même nuancer. Et à partir de 1309, le pape, je dis bien le pape et non pas le pape d'Avignon, le pape habite Avignon. Mais c'est le même pape qui serait à Rome s'il était à Rome. En revanche, à partir de 1378, quand s'ouvre ce drame de l'Église qui s'appelle le Grand Schisme d'Occident, il y a deux papes. Il y en a un qui est à Rome, il y en a un qui est à Avignon. Il y a donc bien, à ce moment-là, un pape de Rome et un pape d'Avignon. Tandis qu'avant, il y a le pape et il est à Avignon. C'est pas tout à fait la même chose. Autrement dit, on ne peut pas traiter la papauté d'Avignon comme si elle était en opposition à la papauté tout court ou à la papauté de Rome. Non, Avignon, certes, est très mal vu des Romains. Mmh. Les Romains préféraient avoir le pape chez eux. En oubliant d'ailleurs que quand le pape était censé être à Rome, il était surtout à Viterbo ou à Pérouse, parce qu'à Rome, il était en danger en permanence.
Alors justement, nous allons directement entrer dans le sujet. Hein. J'ai souhaité au cours de cette émission aborder les papes à Avignon et non pas les papes d'Avignon et toute cette question du grand schisme d'Occident qui pourra faire l'objet d'une nouvelle émission. Avant tout, peut-on faire un portrait de la ville de Rome à l'aube du XIVe siècle ? Car si les papes arrivent à Avignon, c'est parce que Rome, bien entendu, est en cause.
Si les papes s'installent à Avignon, plutôt si Clément V s'installe à Avignon et si ses successeurs y demeurent, c'est que l'envie qu'ils ont parfois, l'envie qu'ont certains de regagner Rome ou d'aller à Rome, puisque certains n'y sont pratiquement pas allés, est fortement tempérée par le risque qu'il y a à aller à Rome. Rome est depuis des siècles en proie à des combats internes, à des conflits internes. Ce sont des clans qui sont les uns et les autres composés des grandes familles romaines. Tout le monde connaît l'hostilité des Orsini et des Colonna, mais il n'y a pas que les Orsini, il n'y a pas que les Colonna. On se bat dans les rues, le pape est souvent otage de ces clans qui animent la rue de manière assez fâcheuse. En sorte que l'on voit des papes, y compris les papes français, car ce n'est pas la première fois qu'il y a des papes français. Il y en a eu au siècle précédent et plusieurs. Les papes hésitent à habiter Rome. On en voit même trois qui n'ont jamais mis les pieds à Rome de tout leur pontificat. Mmh. Ce qui fait que la papauté d'Avignon, ça n'est pas une originalité, ça n'est pas une rupture. Le pape n'est plus à Rome. Non, il n'était déjà plus beaucoup à Rome. Mmh. Ce qui est nouveau, c'est qu'il va demeurer à Avignon. Alors que les papes précédents ont passé leur temps à aller de petite ville et de temps en temps à Rome, là, le pape ne va plus quitter Avignon. Au mieux, les papes vont-ils dans le comtat venaissin, dans une résidence d'été, dans une chartreuse, dans un château, mais ça n'est jamais plus loin qu'une journée de marche. On ne voit plus l'itinérance de la papauté. La papauté ne bouge plus. Pour un siècle, elle est à Avignon.
Alors, vous citez Dante, à Italie esclave, maison de douleur, navire sans pilote dans la grande tempête, non dame de province, mais bordel. C'est...
Bon, Dante est sérieusement conditionné par ses engagements politiques.
Nous y reviendrons.
Dans les conflits propres à la ville de Florence, Dante est du mauvais côté, si je puis dire. Il est du côté qui a perdu. Et il en veut donc au monde entier. Il en veut en partie au pape parce qu'il soutient l'autre partie. Ça n'est pas un problème avignonné. Alors que Pétrarque, qu'on retrouvera un peu plus tard, Pétrarque, lui, est vraiment l'ennemi de la présence pontificale à Avignon. Pétrarque est, j'allais dire, un patriote italien qui juge que le pape est en exil et qui invente la formule « la Babylone ». L'exil de Babylone, la captivité de Babylone, ce qui est totalement faux. Le pape n'était absolument pas en captivité. Mais en revanche, dans le cas de Pétrarque, il y a deux désamours. Le désamour contre un pape qui ne vient pas à Rome, et le désamour aussi contre des papes qui n'écoutent pas les conseils qu'ils donnent alors qu'on ne les lui demande pas.
Alors, venons-en à la chronologie. On a beaucoup parlé, hein, votre ouvrage éclaire en quelque sorte l'actualité, puisque on a beaucoup parlé dans les dernières années du pontificat de Jean-Paul II de démission ou d'abdication. Et un des seuls papes qui a abdiqué, c'est à cette époque, c'est le fameux Célestin V.
C'est Célestin V, dont je rappelle d'ailleurs que le seul qui le met en enfer pour avoir abdiqué, c'est Dante, qui n'est ni théologien ni canoniste, et qu'en revanche l'Église l'a canonisé.
Oui.
C'est dire qu'il n'a jamais été réprouvé pour avoir abdiqué. Non, c'est un problème qui se pose très différemment aujourd'hui, où l'on est capable de maintenir en vie quelqu'un qui n'est plus forcément en état d'assumer toutes les responsabilités. C'est un autre problème. À l'époque, il faut bien dire qu'on a vu des cas étonnants. Lorsqu'on a élu, il vous en souvient peut-être, lorsqu'on a élu le pape Jean XXIII, Angelo Giuseppe Roncalli, à notre époque, tout le monde a dit on va élire un pape de transition, parce qu'il était, semble-t-il, assez âgé. La transition a été forte, puisque c'est lui qui a convoqué le Concile de Vatican II. Mais il y avait un précédent, c'est Jean XXII, qui, élu en 1316, alors qu'il est déjà septuagénaire,
va rester 18 ans.
Passe pour un pape de transition, il va rester 18 ans, et c'est lui qui va donner à la papauté, j'allais dire, sa nouvelle couleur, ce nouvel aspect, c'est-à-dire la couleur d'un État, d'un gouvernement, d'une autorité qui n'est plus seulement spirituelle. Jusque-là, il ne faut pas l'oublier, le pape est à la tête d'un État. Mais cet État, il est formé de ce qui a procédé de la donation de Pépin le Bref et de Charlemagne, baptisé donation de Constantin, c'est-à-dire le tiers de l'Italie péninsulaire. En dehors de ça, le pape n'a qu'un pouvoir spirituel. Et il n'a donc pas d'administration autre que l'administration de ses domaines italiens, qui ressemble à l'administration de tout seigneur italien. Et là maintenant, sous Jean XXII, ce pape soi-disant de transition, élu comme un vieillard qu'on élit parce qu'on ne trouve pas quelqu'un d'autre sur le moment, mais on se dit on se rattrapera très vite, ce pape va faire de la papauté une énorme machine. Une machine politique, une machine institutionnelle, une machine financière, au point que qu'il va falloir des outils pour cela. Et l'un des outils, c'est son successeur immédiat qui va s'en rendre compte, c'est Benoît XII. Ce sera de construire un palais pour héberger tout ce monde-là. Parce qu'entre le petit entourage d'un pape qui allait de ville en ville et puis l'énorme entourage d'un pape à la tête d'une machine d'État, il faut les loger. Et de préférence, les loger ensemble de manière à les avoir sous la main. Le premier palais des papes, puisqu'il y en a deux, on y reviendra peut-être. Le premier palais des papes, c'est avant tout un outil de gouvernement. Ce n'est pas encore un instrument de prestige.
Alors, je voudrais revenir tout de même sur les origines. Nous avons évoqué Rome, vous avez évoqué l'État. Il y a un conflit à cette époque, qui est le conflit entre Philippe le Bel et Boniface VIII. Donc Boniface VIII, qui est élu à la place de Célestin
V. Et qu'on accusera de s'être fait élire après avoir poussé l'autre à démissionner. Voilà. Ce qui est assez vraisemblable d'ailleurs.
Oui.
Donc, ça, mais ce n'est pas ça la grande faute de Boniface VIII. La grande faute de Boniface VIII, c'est d'avoir été le dernier tenant de ce qu'on a appelé la théocratie pontificale, c'est-à-dire de la doctrine selon laquelle, parce qu'il est juge de l'homme en tant que l'homme est pécheur, le pape est juge des rois, y compris dans leurs actes de gouvernement. C'était évidemment intolérable par les pouvoirs laïcs, et ceux qui sont, j'allais dire, le plus avancés dans la constitution d'une véritable monarchie, c'est-à-dire les Français et les Anglais, ne pouvaient pas tolérer que le pape s'estime juge de leur politique, parce qu'il était juge à raison du péché. Le ratione peccati invoqué par Boniface VIII allait beaucoup plus loin que les théories de suprématie pontificale qui avaient été élaborées au siècle précédent et au début de ce siècle-là par Innocent III, par Innocent IV. Là, c'est vraiment le pape souverain du monde, y compris au temporel. Philippe le Bel ne pouvait pas le tolérer. Et il a posé la question très simplement, est-ce que le clergé de France est d'abord d'église ou d'abord du royaume ? Quand il s'agissait des finances du clergé, la réponse était évidente.
Alors, ce contexte est très important. Tout cela vient en toile de fond et ça constitue une des raisons de la proximité.
Vous avez raison. Il reste ce qu'on appelle aujourd'hui des contentieux. Ça ne s'appelle pas comme ça à l'époque, mais c'est bien cela. Il y a des contentieux à régler. Le premier, c'est que Boniface VIII a voulu faire le procès de Philippe le Bel. Philippe le Bel a cité Boniface VIII à comparaître devant le concile. Et il voudrait faire condamner sa mémoire par un concile. Le nouveau pape, disons-le tout de suite, Clément V, le Gascon que vous évoquiez tout à l'heure en disant qu'il était le sujet du Capétien, c'est vrai. Il ne faut pas oublier qu'il est en même temps le vassal du Plantagenet. Et par conséquent, traiter ça en termes simplement politiques serait une erreur. Mais il y a les suites de ce contentieux. Il y a les contentieux nés de l'attentat d'Anagni. Bon, Anagni, faut le dire tout de suite, c'est cher à Colonna, c'est un parti romain qui a malmené le pape. Mais Nogaret était présent, Nogaret en a profité pour délivrer sa citation à comparaître devant le concile, il passe pour être l'un des fauteurs d'Anagni et il faut régler le problème. Et puis il y a l'affaire du temple qui commence d'éclater. L'affaire du temple, elle n'est pas encore devenue ce que nous connaîtrons ensuite, c'est-à-dire un véritable drame. C'est une question. Est-ce que le temple sert encore à quelque chose? Et est-ce qu'il est indigne de sa vocation? La question est posée au pape et là, j'y reviens. Le Gascon Clément V est un bon diplomate. Le Gascon Clément V est un bon juriste, mais c'est un velléitaire. Et la plus grande ambition qu'il a, c'est que tous les problèmes puissent attendre son successeur. Autrement dit, il atermoie. Et le roi de France n'accepte pas l'atermoiement, d'où les drames que vous connaissez. Mais le résultat de l'opération, de ces opérations, si je puis dire, c'est qu'aux yeux de Clément V, qui vient d'être élu l'archevêque de Bordeaux, Bertrand de Gault, eh bien, les grands problèmes d'urgence qu'il faut régler sont en France. Parce qu'il conçoit, d'une part, qu'il connaît mal les problèmes romains, que d'autre part, dire qu'ils sont urgents à régler alors qu'ils durent depuis un siècle ou deux, ça n'est pas dans son esprit. Il ne se dit pas « il faut que je rentre à Rome pour calmer le jeu là-bas », on n'arrive pas à le calmer. Il se dit « il faut que je reste en France pour calmer le jeu ici », parce que là, les drames sont récents. À quoi sert le temple? On se pose la question depuis que Saint-Jean d'Acre est tombé, pas avant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de templiers accusés de toutes sortes de fautes? On ne se pose la question que depuis qu'ils ont été dénoncés par un transfuge. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de la culpabilité éventuelle de Nogaret, du pardon des gens qui étaient à Anagni? La question ne se pose que depuis Anagni. Par conséquent, Clément V peut avoir, à juste titre, l'idée qu'il va d'abord régler les problèmes en France et qu'ensuite on verra bien. On verra bien, je n'ai pas dit qu'il se dit qu'ensuite il ira en Italie. Clément V a beaucoup de talent pour gagner du temps.
Alors pourquoi Avignon et surtout, est-ce que le pape compte y rester longtemps? C'est ce que je vous propose de voir Jean Favier après une première pause.
Canal Académie.
Thank you.
Nous reprenons le cours de notre émission. Un jour dans l'histoire reçoit Jean Favier, auteur d'une monographie, « Les papes d'Avignon », paru chez Fayard. Alors, nous avons évoqué Clément V, donc, qui peut être en contentieux avec la France, avec l'Église.
Des contentieux en France plutôt qu'avec la France, d'ailleurs.
Alors, n'est-ce pas ennuyeux, au fond, d'être aussi loin de Rome, tout de même, et des affaires de l'État pontifical ?
Alors, qu'il soit loin des affaires de l'État pontifical, c'est en effet très ennuyeux, et ça fera la fortune, si je puis dire, de quelques grands légats qui iront gérer les affaires en Italie à la place du pape. Je pense en particulier, évidemment, au cardinal espagnol Gilles Albornoz. Mais Avignon est finalement beaucoup plus central dans la chrétienté que Rome. Du point de vue géographique. D'autre part, l'une des raisons pour lesquelles Clément V s'installe à Avignon en attendant, c'est qu'il a convoqué le concile et que ce concile est convoqué à Vienne. Vienne, sur le Rhône. Vienne, en terre d'empire, comme Avignon. Le royaume de France, c'est de l'autre côté du Rhône. Alors, on pourrait dire, mais pourquoi convoquer le concile à Vienne ? Eh bien, écoutez, on avait autrefois convoqué des conciles au Latran, c'est-à-dire à Rome, mais les deux derniers conciles écuméniques, ils ont été à Lyon. Il n'est pas extraordinaire de convoquer un concile écuménique à Vienne. Et par conséquent, le pape, qui ne veut pas être esclave, enfin, disons prisonnier, captif, même politiquement, du concile qu'il convoque, ne veut pas résider à Vienne. Il ira à Vienne. Mais il s'établit à une certaine distance de cette ville. Il s'établit en terre d'empire, donc pas chez le roi de France. Et en même temps, vous le disiez tout à l'heure, il s'établit chez la comtesse de Provence, la reine Jeanne de Naples, laquelle, étant en Italie, ne l'ennuiera pas à Avignon. Et il finira par lui acheter la seigneurie d'Avignon. Je rappelle qu'il est déjà seigneur du comtat vénétien, mais que Avignon n'est pas dans le comtat vénétien, la capitale en étant Carpentras.
Alors, je vous cite, page 107, « Le concile achevé, le temps pouvait sembler venu du voyage vers Rome. Clément V n'en parla même pas. »
Il a vieilli. Il n'a plus envie de bouger. C'est très simple. Avait-il vraiment envie de bouger ? Je n'en suis pas sûr. Ce qui est certain, c'est qu'il n'a pas beaucoup de santé et qu'au fond, il se dit « Après moi, mon successeur verra ». Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'on va avoir beaucoup de peine à lui trouver un successeur, que le conclave va durer 2 ans et que finalement, le nouveau, ça sera ce vieillard que j'évoquais tout à l'heure, qui, lui, formera vraiment une papauté à Avignon.
Oui. C'est une élection interminable. Donc, le Clément V meurt au mois d'avril 1314 et l'élection va durer plus de 2 ans. Et c'est de cette époque, je parlais d'actualité, de reflet de l'actualité, c'est à cette époque que le mot conclave apparaît ?
Non, le mot conclave est antérieur, depuis qu'on les enferme, pour essayer de les obliger à conclure. Mais ils sont enfermés que modérément, puisque pendant le conclave que nous évoquons là, ils se sont égaillés à plusieurs reprises. Non, en réalité, ce qui est important, c'est que le pape ne peut être élu que par les cardinaux. Mais que... Et ce ne sera pas la dernière fois. Les princes temporels font connaître leurs désirs. Il n'y a aucun doute que les élections à Avignon ne peuvent pas négliger l'opinion du roi de France, ne peuvent pas négliger l'opinion de l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Et qu'on verra à certains moments des conflits à ce sujet. Mais finalement, les cardinaux sont assez libres de leur élection et on constate alors qu'il y a dans le Sacré Collège bien des cardinaux qui sont apparentés aux princes de ce monde, aux princes temporels, pas un seul ne deviendra pape. On n'élit pas un fils ou un neveu de roi. Alors, on en fait des cardinaux.
Donc Jean XXII est élu, vous le présentez comme un excellent administrateur, vous le disiez tout à l'heure, il crée... Il crée la machine. C'est-à-dire qu'à Rome, cette machine n'existait pas ?
C'était beaucoup plus léger. C'était l'entourage du pape.
Donc on vit vraiment une période de transition.
Oui, et avec les moyens et avec les objectifs. Les objectifs, c'est de mettre la main sur l'Église véritablement, et pas seulement au spirituel. C'est vraiment de faire de l'Église d'Occident, l'Église... J'emploie volontiers le mot église latine, parce que le mot occident, on ne sait pas très bien ce qu'il veut dire, il faut définir l'Occident, tandis que l'église latine, c'est assez clair, c'est l'église qui n'est pas grecque et qui sera ensuite plus souvent qualifiée d'église orthodoxe. Bon, l'église latine, le pape est en train d'en faire sa chose, au point de, pardonnez-moi un terme qui n'est pas le terme exact de l'époque, de confisquer les bénéfices ecclésiastiques. C'est-à-dire de mettre la main sur ce qu'on appelle à l'époque la collation des bénéfices. Avec une progression, ça commence au début du siècle et ça va atteindre son point culminant sous Grégoire XI, c'est-à-dire dans les années 1370. on ne peut plus nommer un curé de campagne s'il n'est pas désigné par le pape. Et ça va plus loin. On verra le pape désigner à l'avance le titulaire d'une paroisse ou d'un évêché qui n'est pas encore vacant. Donc il y a une appropriation de l'Église par la papauté. Mais avec sa conséquence, qui est la fiscalité sur les églises, la papauté devient une machine financière extraordinaire, avec des relations inévitables dans ces conditions, avec les compagnies bancaires, avec l'inévitable négociation avec les princes. Les princes, ils veulent bien que le pape impose son clergé à condition d'avoir leur part. Et quand on impose une décime, soi-disant pour la croisade, en réalité, on l'impose en étant plus clair. C'est pour permettre aux souverains occidentaux de mettre fin à leur conflit, autrement dit d'en finir avec leur guerre, on leur donne de l'argent. Naturellement, ils n'en finissent pas avec leur guerre. C'est parce que la réconciliation est une condition nécessaire avant qu'on passe à la croisade. Mais en attendant, tout le monde en met dans ses poches. Et si vous le voulez, et le pape, et les rois ont leur profit dans l'affaire. Sinon, ça n'aurait pas duré. Les rois sont de partie dans cette construction financière. Et les compagnies financières, les grands banquiers de Florence, ou un peu plus tard, ceux de l'Italie septentrionale, de Lombardie, du Piémont, tous ceux-là d'Asti, tous ceux-là sont également de partie. Ils y ont un tel profit. Mais il faut voir que dans la mesure où Avignon devient, disons pas une capitale, le mot est trop chargé d'un sens très précis, mais devient l'énorme ville, centre de l'Église, la ville éternelle demeure en Rome. C'est toujours à Rome qu'il y a le tombeau des apôtres. C'est toujours à Rome qu'on va gagner l'indulgence du jubilé. Avignon ne remplace pas Rome. Il n'y a même pas de pèlerinage à Avignon. Mais en attendant, dès lors que Avignon devient la tête de cette énorme machine humaine aussi qu'est l'Église, elle est la tête d'un centre de consommation à très haut niveau. Alors ne vous étonnez pas du rôle économique que va jouer Avignon, que vont jouer à Avignon les puissances financières.
Alors je souhaiterais, Jean Favier, évoquer peut-être un peu sommairement, malheureusement pour nos auditeurs, mais nous n'avons que moins d'une heure, nous avons évoqué Jean 22, administrateur. Il est remplacé alors évidemment par une personne qui doit obligatoirement ne pas lui ressembler, parce qu'à chaque fois on essaye d'élire une personne qui ne peut ressembler
alors
pas
au précédent. Alors on va chercher un saint homme, et après cela, après le saint homme, eh bien, il y en a un qui s'impose. C'est Pierre Roger. Pierre Roger, c'est le conseiller des rois de France, c'est un grand personnage du royaume de France, il a eu les plus grands bénéfices ecclésiastiques, et il est apparenté à une bonne partie de, j'allais dire, la classe dominante. Et il devient le très grand Clément VI. Alors Clément VI, c'est tout autre chose. Benoît XII, celui que j'appelais le saint homme, Benoît XII, c'est un religieux, pieux, mais qui gère les affaires. Ce n'est pas un homme qui revient en arrière sur la construction de son prédécesseur. Simplement, c'est lui qui construit le palais pour donner une base territoriale à sa machine administrative. Et Clément VI, c'est autre chose. Lui, il va jouer une politique de prestige. Il va faire venir les artistes, il va faire construire le deuxième palais, le superbe palais des papes, celui que nous pouvons visiter, puisqu'actuellement les deux subsistent. C'est un cas d'exception d'ailleurs, que de pouvoir visiter dans son achèvement cette considérable construction de prestige, mais d'utilité aussi, qu'est le palais des papes d'Avignon. Alors, il fait venir des artistes, il fait venir des musiciens de l'Europe du Nord, essentiellement de Flandre, mais aussi de la région de Reims, par exemple, ou de Cambrai. Il fait venir des peintres, surtout des Siennois, c'est pas par hasard, c'est là qu'éclot à ce moment-là la grande peinture italienne de la deuxième moitié de ce XIVe siècle. Il fait venir des orfèvres, notamment de Limoges. Il fait venir des architectes, notamment de la région, enfin, sinon de la région parisienne, tout au moins de la France royale. Il fait venir tous ceux qui peuvent concourir à la grandeur de cette tête de l'Église. J'ai délibérément écarté pour l'instant les humanistes. Parce qu'il ne les fait pas venir, c'est eux qui viennent d'eux-mêmes, mais qui ne vont pas, eux, s'établir, s'installer. Les artistes, ils ont une clientèle, ils s'installent. Les humanistes vont plutôt faire d'Avignon le lieu de rencontre, le lieu de convergence des idées, des livres surtout, que l'on emprunte de livres en ce temps. On emprunte, on copie. Et la bibliothèque des papes d'Avignon est certainement la plus grande bibliothèque du temps. Et pas seulement riche en ouvrages pieux. Tout ce que l'Antiquité a légué, l'Antiquité laïque, l'Antiquité non sacrée, se trouve dans la bibliothèque des papes d'Avignon. Les ouvrages des grands humanistes florentins de l'époque s'y trouvent aussi. Alors, voyez-vous, Clément VI, c'est un prince. C'est un prince, il ne faudrait pas dire que c'est une exception, Parce que à la même époque, vous avez à Paris le mécénat de Charles V et des princes qui l'entourent, de ses frères. N'oublions pas que quelques temps plus tard, vous allez avoir l'un des plus grands mécènes de tous les temps, c'est le duc de Berry. Que vous avez déjà, autant même avant Charles V, le mécénat des reines, et notamment des reines veuves. On est tenté de se dire, si Clément VI n'avait pas joué ce jeu, il n'aurait pas fait son métier de pape. Seulement, vous le disiez tout à l'heure, après un pape, on élit le contraire. Et après, bien entendu, on va aller chercher quelqu'un de plus modeste.
Alors, avant de revenir à Innocent VI, puisqu'il s'agit d'Innocent VI, Clément VI apparaît davantage comme un homme d'État par rapport à son prédécesseur.
C'est un homme d'État servi par des hommes d'État. Il ne faut pas oublier que dans le même temps, il y a de très grands légats, des cardinaux influents, influents par leurs qualités intellectuelles, influent par leur réseau d'alliances aussi. Un cardinal comme le cardinal de Talleyrand, le Talleyrand Périgord, un cardinal, je pourrais en citer plusieurs autres, Albornoz est parent du roi de Castille. Et ces cardinaux-là mettent en œuvre leur réseau personnel d'alliances. En sorte que quand on s'interroge, est-ce que les papes d'Avignon font la politique que veut le roi de France ? Oh, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que chaque légat fait sa politique qu'il juge être bonne pour l'Église telle qu'il la voit,
ouais,
lui.
Ouais.
Et vous avez le cardinal Guy de Boulogne, aussi bien allié familialement que le cardinal de Talleyrand-Périgord. Il est parent de tous les princes de l'Occident. Quand il mène une politique en tant qu'arbitre entre l'Angleterre et la France, les Anglais lui reprochent d'être en faveur des Français, les Français lui reprochent d'être en faveur des Anglais. Il mène sa politique. Alors dire le pape est-il sous l'influence de la cour de France ? À certains moments, oui, dans un certain moment du jeu de relations. C'est beaucoup plus simple dans la vie courante. Mais quand on veut faire une analyse sur le long terme, on s'aperçoit qu'il serait vain de ramener la politique des papes d'Avignon à une pure et simple suggestion par rapport à la France.
Alors, il nous reste encore trois papes, Jean-Favier, avant notre retour à Rome. C'est ce que nous verrons dans un instant.
Canal Académie vous propose d'entendre Valéry Giscard d'Estaing présenter les archives de son septennat de 1974 à 1981. Écoutez l'ancien président expliquer comment les archives de la présidence sont non pas des documents privés, mais des archives nationales, une source majeure pour les études en histoire contemporaine. Ces émissions sont en libre téléchargement sur canalacademie.com.
Je reçois Jean Favier, auteur d'une monographie consacrée au pape d'Avignon, une monographie parue aux éditions Fayard. Alors, nous avons évoqué les quatre premiers papes qui sont à Avignon. Il y a une subtilité entre pape d'Avignon et pape à Avignon. Nous en sommes à Innocent VI. Donc Innocent VI, vous le disiez avant la pause, il s'agit d'un homme qui est tout le contraire de son prédécesseur, qui était très dépensier. Je vous cite, on soulignera donc comme une vertu ce qui est sans doute une faiblesse. Clément VI ne sait pas éconduire les solliciteurs.
Oui, Innocent VI, ça a été le contraire, et ça a été, si vous voulez, une période, j'allais dire, de détente un peu. Car ensuite surgit, j'allais dire de nouveau, parce qu'on n'a jamais cessé d'en parler, mais pour la première fois sérieusement, le problème, est-ce qu'on rentre à Rome ? Et là, c'est avec le pape Urbain V que la question va être tranchée. Urbain V, qui lui est un religieux. C'est la deuxième fois qu'on voit apparaître un religieux. Urbain V est un bénédictin. Et ce pape s'est fixé comme objectif de rétablir la papauté à Rome, parce qu'il estime que la place du pape est auprès sur le tombeau des apôtres. Les papes sont quand même en permanence objets de sollicitations et parfois d'intimidation. Je pense à cet évêque qui avait oublié d'aller dans son diocèse. Le pape lui dit « Qu'est-ce que vous faites ici, à Avignon, Ferrimet, dans votre diocèse ?» Et il dit « Et vous, très Saint-Père, est-ce que vous êtes dans le vôtre ?» Et oui, bon, à quoi le pape répond que le diocèse du pape, c'est la chrétienté tout entière. On lui rappelle qu'il est évêque de Rome. Mais en bref, Urbain V tente le retour à Rome. Et c'est le fiasco. C'est le fiasco parce qu'il n'a pas mesuré les difficultés. Il n'a pas mesuré que tout ce qui avait provoqué les réticences envers la ville éternelle dans les premières années du siècle subsiste. Il est obligé de revenir à Avignon. Et c'est le successeur, c'est Grégoire XI, qui va, lui, rétablir réellement la papauté à Rome, mais avec la conséquence que nous avons déjà dite, c'est le grand schisme.
Alors, je reste tout de même sur Urbain V, parce que c'est un personnage particulier. Vous le dites, il ne revient pas à Rome. Il a peur des responsables.
Urbain V revient à Rome, mais il reviendra à Avignon.
Il reviendra à Avignon ensuite. Vous en faites un personnage qui tremble un peu des responsabilités.
Oui. En réalité, il a été béatifié et il est de bon ton d'en dire beaucoup de bien. En réalité, il est probable que ça a été un pape assez fâcheux. Et il n'a pas vraiment...
Il a été béatifié en 1870,
oui.
Ce qui est un symbole politique, oui, bien évidemment.
Exactement. En réalité, il n'a pratiquement rien réussi de sérieux. Il a vécu sur un rêve. Il a vécu sur un rêve d'homme pieux. C'était un homme très pieux. Il n'a peut-être pas mesuré qu'il était aussi le chef de l'Église. Et de l'Église qui ne ressemblait plus à l'Église du XIIe siècle. Qu'il était aussi le chef d'un État pontifical très difficile. L'Italie, n'entrons pas dans les querelles italiennes, mais je rappelle que c'est l'époque où non seulement les Gibelins et les Guelfes s'entretuent, mais au sein même du parti Guelf, les Blancs et les Noirs. Bon, c'est l'échiquier est d'une extraordinaire complication. Les troupes appartiennent à leur capitaine beaucoup plus qu'à leur souverain. Le pape a des soldats quand il peut les payer, que sinon les soldats se retournent contre lui. Et Urbain V n'a pas mesuré probablement les inconvénients du retour à Rome. Et Grégoire XI les a mesurés, a cru pouvoir en avoir raison, et il est mort.
Alors, Grégoire XI précisément, vous dites de lui que c'est le premier véritable humaniste. Que signifie le mot humaniste au XIVe siècle ?
Je veux dire que c'est les premiers dont nous... Parce que Clément VI, c'est un prince fastueux. Et quand il collectionne les livres, c'est par goût, j'allais dire, du prestige qu'apporte une riche collection. On n'a pas l'impression que ce soit lui un homme de lettres. Alors que Grégoire XI est quelqu'un qui lit énormément. On en dira d'ailleurs, on pourra en dire autant de Benoît XIII quand on reparlera plus tard peut-être du grand schisme. Mais c'est un homme qui lit, c'est un homme qui croit à la nécessité de ces échanges intellectuels où Avignon tient le rôle essentiel d'une plaque tournante. Parce que où sont les foyers de l'humanisme ? Le foyer florentin, il a déjà un demi-siècle d'existence. Le foyer parisien, il est très récent. Il est très récent. Il naît non pas dans le milieu de la Sorbonne, etc., où il prospérera un siècle plus tard. Et il naît dans le milieu des chancelleries. La chancellerie de Louis d'Orléans, la chancellerie de Charles VI et celle de Louis d'Orléans, son frère. Et ce qui fait ce qui donne à la place d'Avignon son originalité, c'est que c'est là qu'on se rencontre. C'est là qu'on échange, et pas seulement des propos, des mots, etc., mais aussi, c'est très important à l'époque, des ouvrages. Je le disais tout à l'heure, on emprunte beaucoup. Et avoir connaissance d'un livre, c'était quelque chose qu'aujourd'hui nous avons de la peine à imaginer, tant il nous semble facile d'avoir accès à un ouvrage, même quand on a quelques peines à se le procurer, on sait quand même comment faire. À l'époque, on voit le pape charger un émissaire d'essayer de lui trouver tel ouvrage de Cicéron, dont on sait qu'il existe, mais dont on ne sait pas où on pourrait le trouver.
Oui, il y a un rayonnement culturel d'Avignon, de vos chapitres.
Beaucoup plus dans les arts que dans la littérature.
Oui.
C'est vrai. Ne traitons pas de l'humanisme littéraire seul.
D'accord.
En revanche... Peut-être parce qu'il y a une clientèle, je le disais tout à l'heure, mais j'y reviens à haut pouvoir d'achat. Il n'y a pas que le pape qui commande des œuvres d'art, les cardinaux ont tous une chapelle. Dans cette chapelle, il y a des musiciens, il y a même parfois des organistes. Et les cardinaux ont tous leur bibliothèque, bien entendu, mais ils reçoivent. Pour recevoir, ils ont une orfèvrerie qui est d'or, d'argent ou de vermeil, une orfèvrerie que l'on commande, que l'on fait réaliser, à ses armes. C'est pas, j'allais dire, un mobilier hérité. Tous ces gens-là se sont dotés des moyens du paraître. Et par conséquent, tous les artistes ont trouvé là un marché extraordinaire, le même qu'ils trouvent à certains moments à Paris et qu'ils ne retrouveront pas par la suite à Paris quand ce sera sur les bords de la Loire que sera le grand marché de l'art français. Mais souvenons-nous de ce qu'est le marché de l'art parisien au temps de Philippe le Bel, de ses fils et de Charles V. Eh bien, Avignon, c'est la même chose.
Alors, d'un point de vue peut-être plus général, vous avez présenté tout à l'heure cette période de transition qui est cette période où se développe un appareil administratif, un appareil financier. Il y a une autre évolution du siècle, c'est le déploiement ou plutôt le développement du pouvoir pontifical, non pas à l'encontre des conciles, mais au détriment peut-être du développement des conciles qui était important au siècle précédent.
Et qui le sera beaucoup plus après quand les conciles battront en brèche l'autorité pontificale. Non, l'ennemi du pouvoir pontifical au XIVe siècle, ça n'est pas vraiment les conciles, pas encore et plus. Non, c'est le pouvoir impérial. C'est au tour de l'équilibre entre le pouvoir impérial et le pouvoir pontifical que s'organise toute une querelle d'idées, tout un mouvement d'idées dont les figures les plus marquantes sont d'une part Dante, car il n'y a pas que la Divine Comédie, il y a un traité de la monarchie de Dante. Et puis, cet ouvrage qui a fortement marqué son époque, le Défensor Passis, c'est-à-dire l'ouvrage de deux universitaires parisiens, Marcille de Padoue et Jean Jandin. Et la grande question qui se pose à ce moment-là est une question de théorie politique presque aristotélicienne, c'est-à-dire que ceux qui sont au pouvoir dans l'Église, pendant cette papauté d'Avignon, ce ne sont pas vraiment les théologiens, ce sont les juristes. Ce sont les juristes pour deux raisons. D'une part, il y a ces questions qui dominent, ces préoccupations intellectuelles qui sont d'ordre politique. Et il y faut des juristes. Et deuxièmement, cette machine que j'ai tout à l'heure évoquée à plusieurs reprises, elle fonctionne avec des administrateurs, avec des juges, avec des financiers qui savent un peu de droit, qui sont au moins frottés de droit. J'ai noté que les collecteurs pontificaux ne sont pas des banquiers, ce sont des petits juristes sachant compter. Et par conséquent, une belle carrière dans l'Église, on l'obtient mieux en étant docteur en droit, et de préférence in utroque, c'est-à-dire docteur dans les deux droits. Ah, si vous êtes docteur en droit civil et en droit canonique, vous avez de bonnes chances d'être un jour évêque, peut-être archevêque, peut-être patriarche d'Alexandrie et peut-être cardinal. Si vous êtes simplement docteur en théologie, vous avez des chances, mais moindres. Alors, à cela, il faut quand même le noter, c'est quand même un peu étonnant de voir l'Église qui n'a plus les grandes préoccupations théologiques du temps passé. La dernière grande, ça a été la pauvreté évangélique, suscité par l'ordre franciscain, mais qui ne touche pas vraiment le monde séculier, le monde laïque. Il faut être franc, les fidèles ne sont pas souciés énormément de cette affaire. Ça a secoué le monde franciscain, ce qui est quand même considérable, c'est quand même l'un des grands ordres religieux. Mais il semble bien qu'après les grandes querelles du XIIIe siècle, et notamment la querelle de l'aristotélisme, de l'avéroïsme et du thomisme par conséquent. Alors je vous rappelle que saint Thomas a été condamné et qu'il est maintenant canonisé. Ça change quand même tout. Il est canonisé quelques dizaines d'années après sa condamnation. C'est dire que l'Église a fait un singulier retour en arrière. Après ces moments de remuement intellectuel extraordinaire, avec d'autres querelles sur lesquelles je ne m'étendrai pas ici parce que ça serait un peu compliqué, un peu long, je pense à la querelle des universaux. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a une réalité dans ce monde ? Quand je dis les arbres, est-ce que ça a une réalité ou est-ce que simplement c'est la somme d'arbres qui, eux, ont une réalité un par un ?
Les fameux nominaliste.
Eh bien oui, exactement. Toutes ces querelles qui ont été des querelles de logiciens, donc de philosophes et de théologiens, appartiennent maintenant pour l'essentiel, au passé. Il y en a encore quelques-unes à Oxford, il y en a quelques-unes encore dans l'Empire, mais l'essentiel, c'est quand même qui gouverne la chrétienté en tant qu'elle est une entité politique. Le monde chrétien, comme aurait dit Charlemagne, l'Empire chrétien. Je vous rappelle que Charlemagne ne parle pas de son empire en d'autres termes qu'en disant l'empire chrétien. Eh bien, qui domine l'empire chrétien ? Là, c'est entre l'empereur et tous ceux qui trouvent que le pouvoir pontifical a trop progressé, qu'il faudrait le réduire. Et puis le pape, qui trouve que l'empereur n'est qu'un souverain, soutenu par un roi de France qui rappelle volontiers qu'il est empereur en son royaume et qu'il n'a rien, il ne doit rien à l'Empire, il ne doit rien à l'empereur. Alors, c'est là que sont les grandes querelles intellectuelles qui occupent les esprits, il faut bien le dire, les esprits d'une certaine élite intellectuelle. Il faut être franc, le fidèle de base de tout ça, il n'a pas vu grand-chose. Et n'anticipons pas sur le grand schisme, mais quand il y aura le drame de l'Église, deux papes, ça perturbera beaucoup plus les évêques que le paroissien de base. Lui, le paroissien de base, ce qui lui importe, c'est qu'il y ait un curé pour baptiser, pour enterrer, pour confesser.
Jean-Favier, nous nous retrouvons après cette toute dernière pause. Nous entamons la dernière partie de notre émission. J'ai l'honneur de recevoir Jean Favier de l'Académie des Inscriptions des Belles Lettres, auteur d'une monographie consacrée au pape d'Avignon. Alors, nous évoquons, Jean Favier, les papes à Avignon, puisque les papes d'Avignon correspondent à l'époque du grand schisme, hein, époque dont vous parlez bien évidemment dans votre ouvrage. Toute la troisième partie de votre ouvrage y est consacrée et elle fera l'objet d'une autre émission. Alors, je voudrais tout de même revenir sur les débats dont vous parler des débats intellectuels, puisque on a tendance à voir l'histoire médiévale comme une période obscurantiste, et on n'en est rien, il y a toute une émulation intellectuelle, et il y a cette querelle de la vision béatifique. Et en quoi est-elle nouvelle, cette querelle? Elle touche un pape, et pour la première fois dans l'histoire, un pape frôle l'hérésie.
Ah bon, on a frôlé le pape condamné pour hérésie. La querelle de la vision béatifique, c'est une chose assez simple. Il y a le jugement dernier. Le jugement dernier, on en parle depuis que la chrétienté existe et tous les tympans de l'art roman l'ont figuré. Et puis il y a le jugement particulier. C'est ce qui se produit quand quelqu'un meurt et qu'il arrive devant l'Éternel. Question posée tout d'un coup, qu'on avait beaucoup moins posée jusque-là, à quel moment est-ce qu'on va en enfer ou est-ce qu'on va au paradis? Je rappelle que c'est l'époque où commence de se dessiner plus fortement les traits de ce qu'on appellera plus tard le purgatoire. Bon. En bref, est-ce que l'âme est fixée sur son destin éternel au moment où elle comparaît, ou bien est-ce qu'elle attend la fin des temps? Ça change beaucoup de choses, surtout quand on ne sait pas quand sera la fin des temps. Et là, le pape s'est cru, c'était Jean XXII, s'est cru obligé de prendre des positions qui étaient à rebrousse-poil de tout ce que disait tout son entourage. On a frôlé la catastrophe, il a dû à son lit de mort se déjuger, et celui qui l'a convaincu de se déjuger, c'est celui que j'appelais tout à l'heure un homme pieux et sage, c'est celui qui va devenir Benoît XII, et qui, in extremis, l'a convaincu quand même de ne pas persévérer dans une vision qui était désespérante. Qu'y avait-il de désespérant? C'était de dire, on ne sait pas, on a beau être mort, on ne sait toujours pas où on va. C'est, non pas pour l'éternité, mais presque pour l'éternité, l'incertitude. Soyons clairs, cette querelle de la vision béatifique, elle a beaucoup agité quelques dizaines de théologiens, mettons quelques centaines. Je suis convaincu que le paroissien de base n'y a rien compris, d'ailleurs on ne lui en a pas parlé.
Alors je souhaiterais, Jean-Favier, pour la dernière partie de cette émission, tout de même évoquer tout cet appareil dont nous avons déjà parlé. Il y a un appareil judiciaire que vous décrivez, il y a un appareil financier, vous décrivez également donc les moyens du gouvernement. Quel est le poids de la tradition, quel est le poids de la nouveauté dans ces appareils?
La tradition, bon, rien n'est venu du jour au lendemain. Par exemple, les premières réserves des bénéfices datent déjà du siècle précédent. Rien n'est totalement nouveau. Tout est nouveau à 90%. Autrement dit, le poids de la tradition, il n'est que peut-être dans la définition des pouvoirs des cardinaux, dans cette répartition de l'autorité qui fait que le pape a la totalité de l'autorité, mais qu'il est quand même prié d'écouter ce que lui dit, non pas le conclave. Le conclave, c'est quand on élit un pape, mais le consistoire. Et le consistoire est une institution assez souple. Parce qu'on a coutume de dire le consistoire, c'est les cardinaux réunis autour du pape. Pas du tout. Il y a ce qu'on appelle le consistoire ouvert, où on peut faire venir toutes sortes de clercs, de prélats ou de clercs pas prélats, et où on peut faire venir des laïcs. On voit Guillaume de Nogaret au début, on voit ensuite, on verra même la roi de France siéger au consistoire, accueilli au consistoire, et par conséquent le pape écoute beaucoup. J'ai publié un échange de propos aigre-doux entre le pape et ses cardinaux à propos de la nomination d'un nouveau cardinal, où ils lui disent non, attention, on n'est pas du tout d'accord avec les choix que vous faites. Alors finalement c'est le pape qui tranche. Mais il ne peut pas trancher totalement contre ces cardinaux. Là, il y a un poids de la tradition réelle. Cela dit, la tradition, elle, j'allais dire, elle n'est pas seulement dans ce qu'il peut y avoir de positif, elle est aussi dans le négatif et notamment dans le népotisme. Faut en dire un petit mot. Les papes d'Avignon passent à juste titre pour avoir peuplé le sacré collège de leurs neveux, de leurs frères, de leurs neveux, de leurs cousins, et avoir procuré tous les avantages matériels, y compris laïcs, aux membres de leur famille. Je ne voudrais pas oublier que quand c'était à Rome, c'était les Orsini, les Colonna, les Caetani, les Conti, etc., qui jouaient le même rôle. Il y avait toujours plusieurs cardinaux, Orsini, Colonna, etc. Donc quand on verra le bout du grand schisme, ça sera pour élire, ça sera le pape Martin V, un cardinal qui s'appelait Ottone Colonna. Bon, en bref, c'est pas très nouveau. Ce qui est nouveau quand même, et les Italiens, ils sont plus sensibles que d'autres, ben c'est que ce sont les Français qui en profitent. Et c'est peut-être ça la grande nouveauté, c'est que pour la première fois, l'Église mise en coupe, réglée par la parentèle du pape, bénéficie à des clercs et à des laïcs français. Finalement, le vrai scandale, il est aux yeux des Italiens. Pourquoi est-ce que les Anglais ont, j'allais dire, chevaucher d'autres querelles contre la papauté, à propos des bénéfices notamment, c'est que les Anglais n'avaient pas part à la distribution. C'était les Italiens qui avaient part. Les Scandinaves se tiennent à peu près tranquilles, ils jouent un rôle très effacé dans tout cela. Ils ont vécu, et ça annonce un peu ce que sera la réforme dans les pays scandinaves, ils ont vécu, sinon loin du pape moralement, tout au moins loin physiquement, et ça veut quand même dire quelque chose. Non, ceux qui se sont appropriés le Saint-Siège, c'était les Italiens, et en particulier les Romains. Et on comprend la menace planant sur le conclave de 1378 qui va aboutir au schisme, quand les Romains du Trastevere, c'est-à-dire d'un quartier populaire, agressent un cardinal français dans la rue, lui prennent son cheval par la bride et lui disent « Vous nous élisez un pape romain ou au moins italien, sinon gare à toi. » Ça commence par « Père Saint, Dieu te bénisse » et ça finit par « Gare à toi. » Et l'étonnement, il était chez les Italiens parce que la papauté était française. Tout au moins, souligner tout à l'heure le fait qu'Avignon était en terre d'empire, mais il ne faut pas exagérer non plus, tous les prélats nommés étaient des prélats languedociens, limousins, etc., c'est-à-dire des Français, des sujets du roi de France.
Oui, oui. Mais on est étonné quand même, parce que le fait national, on le fait remonter à l'époque de Jeanne d'Arc, où on envoie des signes avant-coureurs sous Philippe Auguste.
Oui, c'est pas conçu comme national, c'est plutôt conçu comme des phénomènes de clientèle. Vous savez, le fait national, oui. C'est vraiment à l'époque de Jeanne d'Arc, ou plus exactement dans ces années 1430, qu'on le ressent vraiment, que par exemple l'anglais est ressenti comme un occupant. Ben comment voulez-vous que l'anglais, au temps des papes d'Avignon, soit ressenti comme un occupant en France, quand cet anglais, il est formé de Gascons, et qui ont comme chef le captal de Bouche, c'est-à-dire un grand seigneur Gascon. Bon, la notion d'opposition nationale, à ce moment-là, elle n'est pas juste. Mais il y a des clientèles. On est l'homme du roi de France, on est l'homme du roi d'Angleterre. Et c'est ainsi que se comprennent les réseaux d'alliances, les jeux d'alliances et par conséquent les influences.
Alors, est-ce que Jean-Favier, toujours d'un point de vue général, est-ce qu'on peut parler de ce XIVe siècle et de cette papauté à Avignon comme l'embryon d'une centralisation, d'un certain centralisme pontifical ?
Sans le moindre doute. Sans le moindre doute, jamais l'Église n'avait été aussi centralisée qu'à cette époque-là. Il faut être franc, aucune décision ne se prend plus en dehors du palais des papes, dans l'Église. D'où le rejet par les Anglais de l'autorité pontificale. L'Angleterre sera très réceptive à la réforme, parce que l'Angleterre est, depuis le temps de Becket, c'était commencé au XIIe siècle, déjà très hostile à l'intervention du pape dans les affaires de l'Église d'Angleterre. Tout ceci se tient. Alors, il est vrai qu'il y a là un centralisme, il y a la volonté de tout gouverner depuis le palais des papes, il y a la volonté d'envoyer. J'ai parlé tout à l'heure des légats. Il faut bien voir que ces légats, c'est à la fois un agent du pouvoir central, mais c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup d'initiatives. Pourquoi ? Parce que certains ont mis plusieurs années avant de revenir à Avignon. Vous savez, quand on va en légation dans le Saint-Empire, on ne repasse pas par Avignon tous les 8 jours pour rendre compte. Par conséquent, c'est un centralisme qui est tempéré par la personnalité de ses représentants. Et en Espagne, c'est Albornoz. C'est Androuin de la Roche, c'est Albornoz, ce sera Robert de Genève qui sera le premier pape avignonnais du grand schisme, et puis, je vous l'ai dit, Élie Talleyrand de Périgord ou Guy de Boulogne, sans parler d'autres moins connus, moins notables, mais qui à un moment ou à un autre ont joué des rôles considérables. Alors évidemment, il y a ceux qui ne bougent pas d'Avignon. Il y a le camérier en particulier, Pierre de Croix, qui est un personnage considérable, qui gouverne vraiment la machine, la machine politique, financière, pas la machine judiciaire. La machine judiciaire, c'est un cardinal qui est le grand pénitencier. Et ça devient très important dès lors qu'il y a beaucoup de conflits à propos des bénéfices. Vous voyez, il y a quand même quelque chose qui ne trompe pas, c'est le nombre de personnages du monde temporel, princes ou pas princes, qui vont à Avignon pour traiter leurs affaires. Quand on envoie une ambassade à Avignon pour traiter les affaires entre la France et l'Angleterre, c'est quand même bien que c'est à Avignon que ça va se traiter. C'est ça la vraie définition d'une capitale. On n'y est pas encore, mais on commence d'y être. Une capitale, c'est le lieu où il faut aller pour traiter les affaires.
Alors Jean-Favier, nous arrivons au terme de cette émission. Je voudrais tout de même vous poser une dernière question sur
Allez-y.
Le dernier pape à Avignon, Grégoire XI. Avait-il une raison de rester à Avignon finalement? Est-ce qu'il ne s'est pas rendu compte des signes avant-coureurs qui pouvaient mener à la catastrophe que nous évoquerons dans une prochaine émission?
Je pense qu'il n'a pas mesuré l'ampleur du risque qu'il prenait. Il y a probablement un phénomène qui est de tous les temps. L'entourage n'aime pas dire au prince ce qui lui déplaît. C'est valable à quelque époque que ce soit. Et c'est très net là, l'entourage ne dit au prince ce qui lui déplaît que quand ça arrange l'entourage. Autrement dit, Grégoire XI mesure-t-il qu'il y a un risque de schisme? Probablement pas. Qu'il va vivre des moments difficiles? Certainement. Mais attention, il est le neveu, Grégoire XI, c'est Pierre Roger. Or, j'ai dû tout à l'heure prononcer ce nom, c'était Clément VI. Pierre Roger, neveu de Pierre Roger, il est le neveu d'un autre pape. C'est-à-dire qu'il est un homme qui a l'expérience du pouvoir, qui a vu gouverner, qui considère qu'il a, j'allais dire, une autorité naturelle. Et il l'a. Est-ce qu'il se surestime? Est-ce qu'il pense qu'il pourra en avoir raison? C'est probable. Et puis, il y a quand même aussi le grand mouvement dans l'Église qui aspire à des réformes. Et l'une des réformes, ça serait quand même de remettre les choses à l'endroit. On le lui dit quand même, la place du pape, ça serait plutôt à Rome qu'à Avignon. Alors, il y en a qui ont fait la sourde oreille, il y en a qui l'ont entendu, c'est Urbain V, il s'en est trouvé fort mal. Mais je ne crois pas que Grégoire XI parte dans l'ignorance de ce qui l'attend. Vous savez, il part avec une petite armée. Et l'un de ceux, enfin le maître de cette armée, c'est Juan Fernandez de Heredia, celui qui va être le grand maître de l'ordre de l'hôpital et qui sera l'un des principaux personnages du grand schisme. Il part en force, il sait qu'il va avoir des difficultés, c'est un homme courageux certainement.
Eh bien Jean-Favier, je vous remercie de nous avoir évoqué donc les papes à Avignon, et nous évoquerons les papes d'Avignon donc lors du grand schisme, lors d'une prochaine émission. Merci beaucoup, je rappelle les références de votre ouvrage Les papes d'Avignon, paru aux éditions Fayard. À très bientôt.
Merci à vous.
Au revoir.